Il est 18h17, allons-y.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's meet in San Pinto House.
Hi, I'm Radio Rosalie Paris.
Produce get on the radio.
France Inter. Le 18-20.
L'histoire de la pandémie et l'Europe, ça n'est pas l'histoire d'une pandémie, mais de deux pandémies, peut-être plus d'ailleurs. Tant ce Covid a marqué les différences d'un pays à l'autre, tant les perceptions des actions gouvernementales sont différentes d'un pays à l'autre, tant ces divisions risquent d'être durables. C'est la conclusion d'un rapport passionnant du Conseil européen des relations étrangères. On en parle ensemble avec l'un de ses auteurs dans une petite minute. Le bruit du monde ce soir est un fracas, celui des tours, et un choc aussi, celui du 11 septembre 2001, Benjamin Elie est retourné à Grande Zéro et vous propose une drôle de balade dans un quartier qui s'est évidemment intégralement reconstruit, mais pense tous les jours à ce qu'il était il y a 20 ans et à ce qu'il a vécu. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé des sosies en Russie, des proches de manifestants inquiets à Cuba et une location toute particulière à Shanghai. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Boin avec la Pologne qui est, semble-t-il, plutôt dans la colonne quittée. Mais c'est loin d'être simple. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean Marfour qui viendra nous expliquer que les élections allemandes à venir sont beaucoup plus sexy qu'il y paraît. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marc Léonard.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du Conseil européen des relations étrangères et j'ai entre les mains le rapport que vous avez co-signé qui est passionnant et qui nous explique comment le Covid-19 a polarisé la politique européenne et quel impact tout cela aura même sur la politique européenne à long terme. Et au fond, Marc Léonard, on va y venir dans le détail et vous montrer que la pandémie a créé de nouvelles lignes entre nous les Européens. Mais en quoi sont-elles nouvelles? En quoi sont-elles plus sociologiques même que géographiques?
En fait, c'est les deux, et c'est quelque chose qui est très troublant. Quand on a eu la crise de l'euro et la crise des réfugiés, il y avait des clivages très visibles entre Européens de l'Est et de l'Ouest, du Nord et le Sud. Mais au début de la pandémie, la plupart des Européens pensaient qu'on était tous atteints par ce virus, et que c'était un moment européen. Les États membres se sont mis d'accord pour des grands projets communs. Mais ce que notre sondage démontre très vividement, c'est que les perceptions de pays à pays sont très différentes, parce que les Européens ont vécu la pandémie de façon très différente. Alors, dans le nord et dans l'ouest de l'Europe, la majorité de la population n'a pas personnellement été affectée par un deuil, par une maladie grave ou par des difficultés économiques. Mais dans l'Europe du Sud et de l'Est, une majorité a souffert personnellement.
Alors c'est très étonnant, on va y venir peu à peu. Effectivement, il y a un chiffre moi qui m'a scotché au démarrage. 54% des Européens que vous avez interrogés disent que le Covid a eu finalement peu d'effet chez eux. Et j'ai trouvé que c'était un chiffre qui était particulièrement haut que ces 54%.
Tout à fait. C'est pour la majorité, c'était un sport de spectateurs plutôt que quelque chose qu'une crise
qui leur arrivait à eux directement.
Et ça veut dire que eux, leur perception du rôle du gouvernement et aussi de la nature du crise va être très différent de ceux qui ont été personnellement affectés par la crise. Et c'est pour ça que, et le fait que la distribution est tellement différente de pays en pays, par exemple en Pologne ou en Hongrie ou en Espagne ou en Italie, là il y a une majorité qui a été personnellement atteint et leurs perceptions du gouvernement sont très différentes de ceux, par exemple, au Danemark ou en Suède, aux Pays-Bas ou même en France.
Et alors, c'est intéressant parce qu'on viendra à la France un peu plus tard, un peu plus spécifiquement, mais et au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, nous, en France, on se rend compte quand même que on est dans les plus hauts, dans ceux qui n'ont pas été impactés. On est derrière les Danois, on est derrière les Allemands, juste après. Donc, ça veut dire que nous, globalement, ce qui ne reflète pas forcément, on va y venir, ce qu'on vit en ce moment dans les rues en France, globalement, nous faisons partie des gens qui l'ont ressenti le moins, en fait, en Europe.
Oui, mais quand on regarde la sociologie en France, on voit aussi des grands clivages en France aussi. Et c'est ça qui est très visible. Par exemple, quand on parle de trois tribus distincts qui ont des différentes idées de perception de leur gouvernement. Il y a les confiants qui pensent qu'on est en train de vivre dans une crise sanitaire et qui sont convaincus que l'unique raison des restrictions. Oui, exactement. Et puis il y a les méfiants qui pensent que les gouvernements essayent de couvrir leurs erreurs avec un simulacre d'action. Et il y a les accusateurs qui pensent que en fait, c'est un prétexte pour enlever la liberté à la population. Et en France, on voit un pays très polarisé entre, par exemple, les partisans de La République En Marche qui pensent que, qui sont confiants, qui pensent que le gouvernement essaye d'arrêter la pandémie, mais aussi des grandes populations qui sont beaucoup plus méfiants et qui pensent aussi que c'est un prétexte pour un président qui ne respecte pas les libertés de la population.
En vous lisant, Marc Léonard, moi j'ai l'impression qu'on était, nous, au milieu de son sondage, nous en France, dans toutes les contradictions en fait. Il y a la première, effectivement, on le disait, nous sommes au plus haut, donc derrière les Allemands et les Danois, sur ceux qui ont eu finalement, qui ont assez peu ressenti la pandémie, mais effectivement, comme vous le disiez, nous sommes ceux qui, nous avons un gros groupe à plus de 20% qui doutent, et là du coup, nous sommes dans un autre groupe qui rejoint la Pologne et la Bulgarie. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. C'est intéressant aussi de voir qu'on se retrouve dans le groupe également de ceux qui pensent que finalement notre réponse n'a pas été assez sévère. Alors, c'est pas une majorité, mais c'est une pluralité. On est dans le même groupe là que les Suédois. On a l'impression, nous, la France, qu'on est un peu dans tous ces groupes à la fois et qu'on est dans une très grande contradiction permanente, en fait.
Oui, c'est intéressant. La France, enfin, c'est aussi votre
c'est votre ma perception géographie, à moi aussi.
Mais vous êtes, la France est entre les pays nordiques, les pays c'est du vrai. Sud et de l'Est. Donc, mais c'est aussi un pays qui est politiquement très polarisé. Ouais, je pense que ça explique aussi beaucoup ces contradictions. Et on voit aussi que les partis français sont en train de se réinventer. Pour essayer de refléter ces clivages sociologiques. Par exemple, normalement, on aurait pensé que les partisans de La République En Marche seraient beaucoup plus libéraux. Mmh. Mais là, il y a un grand support pour un fort interventionnisme de l'État. Et Marine Le Pen se réinvente en tribune de la liberté. Ça c'est aussi étonnant parce que la plupart des partisans de la République du Rassemblement National sont plus autoritaires, mais maintenant à cause du fait que l'État c'est Emmanuel Macron, ils sont beaucoup plus cyniques sur le rôle de l'État.
C'est marrant que vous utilisiez le mot cynisme d'ailleurs, parce que ce que vous soulignez, c'est que la pandémie a surtout éroder la confiance des jeunes Européens. On pourrait y revenir, si vous voulez. Il y a le clivage que vous décrivez, puis il y a un autre clivage, clairement, qui est un clivage entre les jeunes générations et les plus vieilles générations. Et quand vous parlez des jeunes Européens, et il n'y a pas que nous, là, pour le coup, vous parlez de leur cynisme et de leur désillusion, et même, à terme, c'est votre crainte d'ailleurs, de leur désintérêt total pour la démocratie au regard de cette crise.
Oui, c'est choquant. Au début de la crise, on nous a tous dit que le plus grand risque, c'était pour les vieux et la santé des vieux. Mais la perception des jeunes, c'est que c'est en fait eux qui ont été sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour protéger leurs parents et leurs grands-parents. Et que les grandes victimes de la crise, ce n'est pas les vieux, mais c'est en fait les jeunes. Et dans le sondage, on voit que 2/3 de la population qui a plus de 60 ans pense qu'elle n'a pas été affectée touchée personnellement par la crise, mais 2/3 des jeunes ont été personnellement touchés, surtout avec des difficultés économiques. Mmh. Alors pour eux, le danger, c'est moins le danger de perdre leur vie, mais c'est plutôt de perdre leur enfin leur liberté et y a un grand ressentiment des jeunes, et on voit aussi que le cynisme envers les institutions publiques est beaucoup plus élevé parmi ces jeunes.
Et alors,
dans tous les pays sondés.
Et alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Dans tous les pays sondés, s'il y a bien un point commun au fond, quelque chose, une sorte de ligne qu'on pourrait tracer entre tous les pays européens, c'est bien celle-là. S'il y a beaucoup de différences par ailleurs, là, cette perception que les jeunes ont été sacrifiés, c'est quelque chose qui à la fois n'est pas neuf, parce que ce sont des débats que chacun des pays a eu, mais qu'on retrouve dans quasiment chacun de tous les pays que vous avez sondés.
Oui, exactement. Et je pense que on verra dans l'avenir peut-être des conséquences très très graves dans la démocratie dans tous nos pays. Enfin, on a vu ça un peu après les guerres où les jeunes se sont sentis sacrifiés, car c'est eux qui sont allés combattre.
Ouais.
Et puis quand ils sont retournés, il y avait toujours des conflits générationnels. Et je pense que après le Covid, on aura peut-être des grands clivages générationnels, mais qui seront peut-être comme dans les années 60, peut-être extra-parlementaire plutôt que à travers la mobilisation des jeunes dans les partis établis.
Dans le même ordre, on l'a un peu senti nous d'ailleurs, notamment avec les taux d'abstention lors d'élections régionales en plein milieu, effectivement avant, en tout cas la fin, on n'est pas encore à la fin, mais même avant la quatrième vague et la généralisation du vaccin, il y a dans le même ordre d'idée, il y a un autre grand clivage que vous soulignez et qui est vraiment intéressant, c'est celui de la liberté. Les Européens qui se sentent le moins libres dans votre sondage ne sont pas forcément ceux qui ont eu les confinements les plus sévères. Je pense par exemple aux Allemands ou aux Autrichiens qui ont refermé un certain nombre de leurs villes et de leurs territoires, mais beaucoup moins intégralement que des Espagnols par exemple ou des Italiens qui, eux, mettent beaucoup moins en avant l'idée de la perte de la liberté.
Oui, c'est très intéressant. Mais je pense que c'est peut-être un problème de succès aussi, parce que si on n'a pas été touché personnellement, mais on a dû sacrifier sa liberté, on comprend peut-être un peu moins pourquoi on a fait ces sacrifices que dans les pays où la majorité a souffert à cause directement de la maladie, de la pandémie.
Et alors, dans les perceptions des coupables, entre guillemets, de ce manque de liberté, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui pensent que ce sont les gouvernements, donc les gouvernements de chaque pays, mais aussi éventuellement les Chinois, les multinationales, etc. Et il y a ceux qui pensent, c'est vraiment intéressant, que ce sont les autres, ceux qui ne respectaient pas assez les gestes barrières. Exactement. L'enfer, c'est les autres. Nous, en France, clairement, on appartient à la première catégorie. Donc, les coupables, c'est plutôt les gouvernements, le nôtre et aussi d'autres autour. Qui sont les pays, c'est plutôt intéressant, qui pensent que les coupables, entre guillemets, sont plutôt ceux qui ne respectent pas assez les gestes barrières et qui n'ont pas fait assez attention?
C'est les pays qui ont été le moins atteints, c'est le Nord et l'Ouest et l'Europe de l'Ouest où beaucoup de la population ont peur de leurs concitoyens plutôt que des autorités, parce qu'ils pensent que les autorités publiques ont fait ce qu'ils devaient faire pour essayer de contrôler la pandémie. Mais dans les pays qui sont peut-être un peu plus atteints, il y a une peur. Enfin, et surtout dans des pays polarisés comme la France et la Pologne, où il y a une grande population qui ne soutient pas le gouvernement, où là, il y a beaucoup de peur d'un État trop
fort,
trop de pouvoir.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que vous dites en conclusion qu'il y a en Europe de nouveaux archétypes, ou en tout cas des archétypes d'une nouvelle politique qui peuvent sortir de cette pandémie. Et les exemples que vous donnez, c'est ce que vous venez de donner, c'est-à-dire la Pologne, la France, deux pays qui sont extrêmement polarisés. L'Allemagne aussi, qui se révèle moins consensuelle que prévu. Et c'est intéressant avec les élections à venir d'ailleurs.
Oui, la statistique qui m'a choqué peut-être le plus, c'est un que vous aviez évoqué avant, c'est que une très grande population d'Allemands pense que leurs libertés ont été, qui ne sont plus libres. Et ça montre que derrière le consensus, derrière ce système très modéré, avec des partis qui travaillent ensemble en coalition, il y a beaucoup de mécontentement dans la population.
Alors que c'était notamment, c'est le cas de l'Allemagne, je vous pose la question, parce que ça a été longtemps, au cours de la pandémie, le pays montré en exemple, celui qui arrivait finalement à mettre tout le monde d'accord, le pays où le fédéralisme montrait presque sa supériorité par rapport aux autres organisations. Au début, ça a été ça quand même, l'exemple de l'Allemagne.
Oui, exactement. C'est pour ça que ces sondages ont été très surprenants. Je pense que, de toute façon, c'est toujours très dur d'extrapoler d'un seul sondage et la crise n'est pas encore finie. Alors, on va voir comment ça change. Mais l'exemple allemand est très intéressant parce que il y a 9 mois, l'Allemagne, c'était vraiment le modèle pour d'autres Européens. Et maintenant, c'est beaucoup plus contesté.
Et c'est là que c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que, je le disais, ils votent à la fin de ce mois. Donc, ce sera intéressant. Et effectivement, d'y revenir peut-être, de resonder à nouveau. Marc Léonard, je vous remercie beaucoup. En tout cas, votre rapport du Conseil européen des relations étrangères, il est en ligne et je conseille vraiment à tous les gens qui nous écoutent d'aller jeter un œil et d'aller chercher aussi à l'intérieur de ce sondage européen. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est Le Bruit du Monde. Benjamin Elie vous ramène à Grande Zéro, 20 ans après le 11 septembre. Tout ça a changé, évidemment, bien sûr, mais tout est ancré dans les têtes, toujours aussi là-bas. Le Bruit du Monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni.
En Russie, on n'hésite pas à présenter des sosies aux élections pour dérouter les citoyens.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Bouin, tiens, retour en Pologne avec vous.
Eh oui, on va parler de cette Pologne. A-t-elle encore sa place dans l'Union européenne, pardon? Eh bien, certains ici se posent la question, Fabienne.
Le Monde d'après, bonsoir Jean-Marc Four.
Guten Abend, bonsoir. L'Allemagne, vous le disiez l'instant, voilà. Vote dans 2 semaines. Et n'allez pas croire que c'est casse-pied. Il y a du suspense, de l'action, de la nouveauté, des enjeux.
C'est fou ça. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Melbourne, Australie. Courtney Barnett, Ray Street.
Toes along the road. Bye.
Le bruit du monde est un fracas ce soir, celui de deux tours qui s'effondrent et celui du monde qui change irrémédiablement. Le 11 septembre 2001 sera commémoré samedi par Joe Biden et toute l'Amérique. Et si ce fracas, nous l'avons tous encore en tête, aujourd'hui, ce qu'a été Ground Zero, 20 ans après, n'a évidemment plus rien à voir. 25 milliards de dollars ont été investis et les gratte-ciels ont poussé autour du mémorial. Mais comment ne pas penser au 11 septembre quand on se promène, quand on lève la tête là-bas à Manhattan, et c'est cette balade entre souvenirs, résilience et vie normale que vous propose Benjamin Illy.
Presque 9h du matin, les hommes d'affaires, les travailleurs en tout genre prennent possession du quartier du World Trade Center. Et au milieu de tout ça, il y a Pierre.
Cleaning on the street.
Il a 58 ans, il est d'origine haïtienne. Depuis 10 ans, il balaye les rues dans le bas de Manhattan. Il a littéralement vu pousser les immeubles. Alors oui, son français est hésitant, mais suffisant pour dire l'essentiel. En peu de mots, parler du renouveau.
Le message, c'est quoi? On avait détruit le Twin Tower. Maintenant, on a reconstruit le One World Trade Center, Freedom Tower.
La tragédie, vous la ressentez encore?
Non. Parce que tous les gens vont travailler, ils vont à l'école, ça va aller.
Ça va aller, la vie continue.
La vie continue.
Ground Zero, c'est fini. Le vide est comblé, près de 2 millions de tonnes de gravats envolées sur les cendres des tours jumelles. Le One World Trade Center s'est élevé, il chatouille le ciel new-yorkais depuis 2014. C'est la plus haute tour de l'hémisphère nord, 541 mètres. À terme, le nouveau complexe du World Trade Center comptera 6 immeubles, 4 sont déjà sortis de terre. Il y a aussi l'Oculus, la gare majestueuse, toute blanche, en forme d'oiseau, doublée d'un centre commercial. Un centre culturel doit ouvrir en 2023. Ces nouveaux bâtiments donnent du corps à ce quartier, mais le cœur, c'est le mémorial, inauguré en 2011, et un musée ouvert en 2014 qui accueille jusqu'à 9000 visiteurs par jour. L'eau s'écoule des fontaines monumentales et se déverse dans deux trous béants, l'empreinte laissée par les Twin Towers. Sur les parapets, près de 3000 noms gravés dans le bronze, ceux des victimes. Alors au milieu des touristes qui prennent des selfies, il y a des visiteurs plus recueillis. Ces deux Californiennes, c'est comme un pèlerinage pour elles.
C'est quelque chose qui a touché notre pays. Cela a touché chacun d'entre nous en Amérique.
Alors cette dame est en pleurs, elle effleure les noms.
Chacun de ces noms représente une famille qui a perdu un être cher. Ça me brise le cœur. Et ils ont fait du beau travail avec ce mémorial. Le son vous oblige à faire une pause, à réfléchir. Et c'est ce dont on a besoin, ne jamais oublier.
Hi, sir.
My name is Gerard Owens. Je suis un pompier.
Gerard Owens, 68 ans, ancien pompier new-yorkais le 11 septembre 2001. Il était là, au sous-sol de la Tour Nord, l'un des derniers pompiers à évacuer juste avant l'effondrement. Il a aidé un groupe de personnes à s'échapper. Peu de temps après le drame, et très vite la retraite et la maladie.
J'ai eu 4 cancers.
What do you remember about this day?
Oh, the people screamed. Les gens criaient, c'était terrible. Partout ici, il y avait des corps. Les gens ont sauté dans le vide. Peut-être de 300 mètres de haut, c'était absolument horrible. Mais il fallait aller dans la tour et aider les gens à sortir. Aujourd'hui, je suis ici pour dire au revoir à un de mes amis.
His name, Sergeant Rodney Gillis. Il est en train de chercher le nom d'une victime. C'était un policier.
C'était un sacré dur. 175 personnes que je connaissais sont mortes le 11 septembre. Je ne serai pas là pour l'anniversaire. Il y aura trop de monde. Je préfère venir aujourd'hui.
Écoutez l'eau qui coule.
C'est beau, apaisant.
Vous êtes en paix 20 ans après?
Oui. Oui. Je suis bien.
Et alors, au pied des immeubles, vraiment, il faut bien chercher hein, pour le trouver. Il y a le O'Hara's Bar, presque un symbole de résilience.
Michael King.
C'est le propriétaire. Il a 58 ans, un bar ouvert en 1983, qui est vraiment situé à quelques pas de Ground Zero. Il était à quelques pas des tours jumelles quand elles se sont effondrées. Alors là, sur les murs du bar, il y a des grandes photos. On voit le bar quelques jours après la tragédie.
Covered in dust and debris.
Il n'y a que des débris, de la poussière. It was a long journey.
Yeah, it certainly was.
C'était un long voyage pour ouvrir ce bar.
Yes, everything was blown out.
Oui, tout a explosé ici. On a mis ici ça 8 mois. On a redémarré le 1er avril. C'était encore désert ici, mais on a eu la possibilité d'ouvrir. Nous n'étions pas morts, nous voulions revenir à la vie. C'était misérable cet endroit après les attaques. Tout le monde avait perdu un ami, son lieu de travail. Toutes ces vies étaient bouleversées. Alors, revenir dans notre bar, pour déjeuner ou après le travail, ça leur donnait un sentiment de normalité. C'était comme revenir à la maison. Mais chaque année, à la date anniversaire, c'est le même sentiment de malaise qui vous déchire le ventre. C'est assez horrible.
Alors, ce qui est étonnant dans ce bar, c'est tous ces badges qui recouvrent les murs. Il y en a des milliers. Ce sont des badges de policiers, de pompiers.
What's your name?
Benjamin.
Benjamin, I'm Gloria. This is my boyfriend Brian.
Je viens ici tout le temps. Je travaille sur le chantier juste en face. Je ne veux pas passer pour une alcoolique. Je viens aussi pour déjeuner. C'est un bar très familial. Tout le monde accroche son badge. Tout le monde met un bout de soie ici. Ils aiment les policiers, les pompiers, les secouristes, les ouvriers. Tous ces gens qui ont construit l'Amérique.
You know, the people who build America.
This place, this bar, is a proof of life.
Absolutely.
Et ce bar, c'est une preuve de vie.
They're still here serving alcohol. Oui, ils sont toujours là pour nous servir de l'alcool, un sourire, de la bonne nourriture. C'est la vie, c'est super.
Pour cette bataille à la fois joyeuse, toujours douloureuse aussi autour de Grande Zéro. Merci beaucoup, Benjamin. Le bruit du monde continue sous les radars. C'est Sébastien Logeni et c'est maintenant. Sébastien, nous sommes dans les rues de Saint-Pétersbourg, en Russie, dans l'attente d'élections délicates pour le pouvoir.
Oui, des élections législatives et locales qui préoccupent grandement Vladimir Poutine. Son parti présidentiel Russie Unie n'est crédité que de 34% des votes par les sondages et le scrutin a lieu dans une dizaine de jours. D'ici là, donc, tous les moyens sont bons pour phagocyter les oppositions. On l'a vu évidemment avec l'emprisonnement d'Alexei Navalny. Là, on va vous parler d'une autre technique du Kremlin, bien moins brutale, à la limite du canular, mais pourtant bien réel. L'histoire est la suivante. Un candidat du parti d'opposition Yabloko, qui répond au nom de Boris Vichnevski, bien connu des électeurs de Saint-Pétersbourg, ce candidat a constaté cet été qu'il aurait en face de lui, aux élections régionales, deux concurrents qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Même nom que lui, même barbe, poivre et sel, même calvitie, des sosies, ni plus ni moins. Boris Vichnevski sera donc confronté à deux autres Boris Vichnevski, des Boris qui jusqu'ici s'appelaient Viktor Bykov pour l'un et Alexei Shmelev pour l'autre, et qui se sont fait pousser la barbe opportunément ces derniers mois. Le vrai Boris, lui, ne décolère pas. Il s'agit de fraude politique, dit-il, et peut-être pas seulement politique, car il y a une tromperie directe des électeurs. Il est évident que ces candidats participent aux élections, non pas pour gagner, mais juste pour faire obstacle à un concurrent. Alors juridiquement, la technique n'est, semble-t-il, pas illégale. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les oppositions se plaignent en Russie de stratégies de confusion délibérée. Il n'est pas rare d'avoir des candidats homonymes. Alors lors d'un scrutin, on verra dans 10 jours si les électeurs saint-pétersbourgeois sont tombés dans le piège ou pas.
Direction un pays longtemps proche du Kremlin. Tiens, d'ailleurs, nous sommes à Cuba.
Cuba secoué, on s'en souvient, au début de l'été, le 11 juillet dernier, précisément par des marches de protestation, manifestation inédite de milliers de personnes sorties dans les rues au cri d'abat la dictature, nous avons faim. Alors, 2 mois après cette flambée contestataire, où en est-on? Où sont surtout les détenus arrêtés à cette époque? Selon le travail de recensement d'une ONG locale, eh bien, 949 personnes ont été interpellées pendant ces révoltes spontanées et 437 restent détenus, parmi elles le fils de cette mère de famille, Maïda, ravagée par l'angoisse. Ils ont arrêté tous ceux qui scandaient un slogan, explique cette infirmière de 50 ans. Je n'étais pas là, ajoute-t-elle, mais même si mon fils a crié quelque chose, je ne pense pas que ce soit une raison pour garder cet enfant en prison pendant 2 mois. Il a 24 ans, il est malentendant, il a une tumeur au cerveau, il souffre de migraines et il a été battu. Cette mère de famille a fini par aller voir son enfant derrière les barreaux, mais à la condition, lui a dit la police, qu'elle souhaite elle-même emprisonner, ce qu'elle a fait. Voilà un exemple parmi tant d'autres de la crispation très forte du pouvoir cubain depuis ces manifestations. Des artistes parlent de surveillance jour et nuit, l'impossibilité de sortir de chez eux. Un retour à la culture de la peur, comme le dénonce Amnesty International.
Et on termine, Sébastien, à Shanghai, où des bars d'un genre nouveau ouvrent leurs portes.
On connaissait bien, Fabienne, les Maid Café, ces cafés de serveuses déguisait en soubrette pour cajoler des garçons esselés, eh bien voici l'équivalent pour les filles. On appelle cela des butler cafés, des cafés de majordomes qui s'adressent donc aux chinoises, qui désespèrent de trouver une compagnie masculine attentionnée et respectueuse. Pas question ici de contact physique, de prostitution. Hein. Les butler cafés permettent aux femmes de louer les services de beaux et gentils garçons, l'espace d'une soirée pour regarder des films, jouer à des jeux de société ou simplement pour discuter. Voilà, les femmes qui viennent nous voir proviennent de différentes professions, d'âges très variés, explique ce charmant majordome. Elles sont ici pour partager des choses à propos d'elles-mêmes, mais quand elles ne vont pas bien, elles nous parlent de leurs problèmes. C'est aussi un moyen de soulager leur stress. Voilà, pas certain que ces nouveaux lieux de sociabilité soient le signe d'une société très épanouie, très en forme. Quoi qu'il en soit, ça existe et ça coûte 52 euros la séance.
52 euros, j'espère qu'on peut choisir au moins la conversation pour 52
euros. On peut choisir
euros.
La tenue de son majordome.
Ah bon? Mon Dieu, quelle horreur. Sébastien, demandez donc à Yael Naïm si elle a besoin de votre conversation. En tout cas, elle est là. Ça s'appelle New Sound et c'est sur France Inter.
I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible.
Sur France Inter, New Soul, allez direction Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
European Union.
Général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. En cette rentrée, Angélique, l'un des débats qui agite Bruxelles, justement, c'est la place de la Pologne dans l'Union Européenne. Faut-il un Polexit comme on a eu un Brexit?
Oui, la Pologne, Fabienne, qui s'obstine à ne pas reconnaître la suprématie du droit de l'Union sur ses propres lois. On a encore franchi un palier cet été, mais pour la première fois, cette semaine, la Commission européenne a dégainé l'arme lourde. Elle demande à la Cour de justice européenne d'imposer des sanctions financières à Varsovie sous forme d'astreinte journalière, et cela tant que la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise continuera à brider l'indépendance des juges. C'est maintenant que commence le vrai bras de fer, a estimé le commissaire européen Didier Reynders, en charge de la justice. Parce que, dit-il, on va taper au portefeuille.
La Cour va devoir fixer un montant qui constitue une véritable pression. Donc je vous dirais que probablement on est au-delà des centaines de millions d'euros pour les mois qui viennent. Il faut vraiment que l'autorité polonaise se rende compte qu'il y a une nécessité de changer les choses.
C'est une mesure assez rare hein, qui illustre l'agacement des institutions face à la Pologne, contre laquelle de très nombreuses procédures judiciaires sont en cours depuis de longues années, sans beaucoup d'effets, il faut l'admettre. Et en parallèle, rappelons que la Commission bloque toujours la validation du plan de relance des Polonais, là aussi pour faire pression. Et c'est tout de même près de 24 milliards d'euros dont le pays a quand même besoin hein, pour se remettre de la crise du Covid.
Mais Angélique, la Hongrie est aussi dans ce cas-là, non ? Est-ce que les deux conflits sont pas de même nature ?
Non, on est quand même dans deux situations assez différentes. En Hongrie, on a un autocrate hein, qui profite, Viktor Orban, hein, de l'argent européen pour enrichir ses proches, qui joue la montre, qui fait traîner les procédures jusqu'à son éventuelle réélection. En Pologne, il y a quand même là de l'idéologie avec un pouvoir qui sape l'indépendance de la justice, alors que c'est l'un des fondements de la construction européenne. Et c'est ça qui inquiète beaucoup. Un juge polonais, c'est aussi un juge européen, rappelle Didier Reynders, qui doit donc faire appliquer le droit communautaire, qui ne peut pas être à la botte d'un pouvoir en place. Pour l'Union, c'est une question existentielle, explique aussi Emmanuelle Bribozia. Elle est juriste, vice-présidente de l'Institut d'études européennes à Bruxelles. Elle rappelle tout ce qui est basé sur les règles juridiques communes.
La consommation, le marché intérieur, la coopération judiciaire et policière, le mandat d'arrêt européen, ce qui fait dire à certains qu'on est en présence d'un polexit juridique et que dès lors, la Pologne se met en dehors du système de droit de l'Union et qu'il faudra voir comment on peut faire face à une telle menace pour la construction européenne.
Alors pour la juriste, hein, la décision prise cette semaine par la Commission, c'est un bon début, mais pour elle, l'heure de vérité, ce sera l'application effective du futur règlement qui doit conditionner le versement des fonds européens à l'avenir au respect du droit. Si les institutions vont jusqu'au bout, dit-elle, la facture pourrait être vraiment très salée pour la Pologne, mais aussi pour la Hongrie. Hein, le texte est encore soumis à une vérification juridique. On rappelle que la Pologne, eh bien, c'est le premier bénéficiaire en montant des aides européennes et que le pays en a bien besoin pour accompagner par exemple, sa sortie du charbon.
Mais alors, Angélique, est-ce qu'on peut dire comme ça, bon, allez hop, dehors la Pologne, qui ne respecte pas effectivement nos règles juridiques en plus de nos valeurs ? Est-ce que c'est comme ça que ça marche ?
Eh bien non, car le droit européen autorise un membre à sortir, à quitter l'Union. C'est cet article 50 qui nous a bien occupé, voilà, avec le Brexit. Mais il n'y a pas d'article pour exclure l'un des siens, nous rappelle d'ailleurs Emmanuelle Bribozia.
Non, l'exclusion de l'Union européenne n'existe pas. On n'a pas voulu l'inclure justement parce qu'on pensait que l'Union était une union toujours plus étroite entre les peuples de l'Europe et que par conséquent, ce n'était pas dans son ADN, disons, de prévoir l'exclusion d'un de ses membres.
Voilà, c'est pas dans l'esprit. Hein. Et si l'on prend d'ailleurs l'exemple de la transition écologique, pour être efficace, il faudra évidemment embarquer la Pologne. Hein. L'idée, c'est donc avec le temps plutôt de faire revenir les Polonais à la raison et à la maison.
Merci beaucoup Angélique Boin avec nous depuis Bruxelles chaque jeudi dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. L'Allemagne vote dans deux semaines, le 26 septembre prochain. Une page d'histoire qui va se tourner avec la fin de 16 ans de gouvernance Merkel. La campagne bat son plein. Deuxième débat télévisé dimanche. Vu d'ici, les élections allemandes sont souvent perçues comme austères, ternes, pas très sexy. Pour vous, on a tort, elles sont vraiment passionnantes. Et c'est votre monde d'après.
Mais oui, il y a les ingrédients d'un bon film. D'abord, il y a de l'action et du suspense. À 16 jours du scrutin, l'incertitude est totale. Le paysage politique est très émietté. Aucun parti n'écrase les autres. Ils sont trois à pouvoir l'emporter. Les sociaux-démocrates de centre-gauche à 25% environ dans les sondages. Les chrétiens-démocrates de centre-droit, héritiers de Merkel, évalués vers 20%. Et les écologistes, 16%. Ajoutons que deux autres partis devraient dépasser les 10%, les libéraux et l'extrême droite, et que le nombre d'indécis est très élevé. Et vous vous retrouvez avec une fin de campagne échevelée. L'héritier désigné d'Angela Merkel, Armin Laschet, aujourd'hui distancé, multiplie les annonces et les déplacements pour essayer de refaire son retard. Et donc le débat télévisé de dimanche soir sur les grandes chaînes ZDF et ARD s'annonce déterminant. Et puis en plus, le suspense se poursuivra certainement après le vote. Parce qu'il faudra former un gouvernement de coalition, personne n'aura la majorité pour gouverner seul. Il faudra même peut-être une coalition à trois. Et du coup, un parti arrivé troisième ou quatrième, les Verts, les libéraux, peut très bien se retrouver en position de faiseur de roi. Bref, suspense total.
Alors il y a quand même une chose qui est sûre, l'Allemagne aura un nouveau visage.
Mais là encore, un très bon ingrédient, il y a du neuf. Un nouveau cycle commence. Angela Merkel va s'en aller, après avoir connu, soit dit en passant, quatre présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Elle a présidé sa dernière séance du Parlement avant-hier. L'Allemagne va s'incarner, il faudra s'y habituer, dans un nouveau visage. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet que se déroule en fait la campagne. Le visage, la personnalité des candidats joue un rôle plus important que les programmes. Et à ce jeu-là, le social-démocrate Olaf Scholz, actuel ministre des Finances, a pris une longueur d'avance sur ses deux rivaux, le chrétien-démocrate Armin Laschet et la verte Annalena Baerbock. Conséquence en chaîne, cette situation pourrait conduire au retour au pouvoir du centre-gauche social-démocrate. Cette social-démocratie, vous savez que l'on disait à la dérive il y a encore quelques mois, cette social-démocratie en perte de vitesse depuis 10 ans presque partout en Europe. Là aussi, coup de théâtre en gestation. Du nouveau également avec le score probable des écologistes, ils ne l'emporteront sans doute pas comme ils ont pu à un moment l'espérer parce que leur tête de liste a commis des erreurs. Mais même s'ils sortent à 15 ou 16%, ce sera un niveau historique qui les mettra sans doute en position d'arbitre pour influencer les choix politiques du pays. Là encore, petite révolution au cœur de l'Europe.
Ce qui nous conduit au sujet de fond avec beaucoup d'enjeux.
Alors là aussi c'est passionnant, quelle orientation économique va prendre l'Allemagne qui est le moteur de l'Europe? Va-t-elle continuer à privilégier ses exportations ou favoriser une plus grande intégration avec ses voisins? Une option plausible avec les sociaux-démocrates. Quelle politique de défense adoptera Berlin? Plus d'investissements dans l'Europe de la défense et dans les partenariats franco-allemands? Ou bien le maintien de la priorité à l'OTAN? Ce serait intéressant de voir les écologistes à l'œuvre sur ce sujet. Et ainsi de suite, quelle politique énergétique face aux enjeux du climat? Quelle attitude face à la Russie et à la Chine? Plutôt ménagée par Angela Merkel. En fait, les grands équilibres en dépendent, en particulier en Europe.
Donc, ok, c'est passionnant, Jean-Marc, vous nous avez convaincus. D'ailleurs, on va y aller, armes et bagages, nous, à Berlin pour ces élections. Mais alors, pourquoi on persiste, nous, en France, à regarder ça comme un truc très austère?
Je crois que c'est dû au fait qu'il y a au moins deux différences majeures avec la France. La première, c'est que les électeurs allemands ne cherchent pas la même chose que les électeurs français. Si vous voulez, là où nous avons envie d'être séduits par un candidat, ils cherchent à être convaincus. Mmh. Ça n'a rien à voir. Hein. Les candidats à la chancellerie parlent d'abord au cerveau des électeurs. Donc, vu de chez nous, ça paraît terne, mais vu de chez nos voisins, c'est un gage de sérieux. La deuxième différence, c'est qu'en Allemagne, la stabilité est une vertu, tout comme l'art du compromis. En fait, les deux sont liés. Là où la France se berce de l'illusion à chaque élection, que l'on va faire table rase du passé avec une nouvelle vision de l'avenir, l'Allemagne cherche de la continuité. Mmh. Elle part du principe, donc, que dans ce but, il faut trouver des terrains d'entente entre partis, donc des gouvernements de coalition. Vu de France, c'est de l'eau tiède. Vu d'Allemagne, c'est du bon sens. Vous savez ce que disait l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt? Si vous avez des visions, allez plutôt voir le médecin.
Merci beaucoup Jean-Marc Fauré, je le dis, tiens j'en profite. Puisque c'est passionnant, il y a une soirée conférence sur les relations franco-allemandes avec l'ambassadeur d'Allemagne notamment. Ça va se passer au studio 104 de Radio France, c'est mercredi prochain, le 15, de 18h30 jusqu'à 21h. L'inscription est gratuite, présentée et modérée par Isabelle Labéry. Donc allez-y de 18h30 à 21h. Donc mercredi 15 à la Maison de la Radio, c'est dit.